Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Syllab. Il est 6h avant minuit, vous écoutez votre rendez-vous d'actu local. Est-ce que vous connaissez les déserts de l'information ? Ce sont des territoires où l'on ne trouve aucun média de proximité. Aux États-Unis, c'est le cas de 204 comtés sur les 3000 du pays. Là-bas, ni site d'information, ni titre de presse, ni radio locale. En Amérique, il y aurait même plus de faux sites d'information locale que de réels médias. La désinformation est à l'œuvre. Et les fake news pullulent, on l'a tous vu hein, pendant cette violente campagne présidentielle qui s'achève. En France, 6 milliardaires possèdent la quasi-totalité des médias. Heureusement, Syllab n'a pas encore été racheté. Ouf. Eva peut faire son flash en paix.
Des États-Unis ou pas unis ? C'est encore incertain chez les États-Unis aujourd'hui. En effet, le républicain Donald Trump ou la démocrate Kamala Harris, tout se joue entre ces deux candidats qui se font face depuis des semaines dans la course à la présidentielle. Mais c'est aujourd'hui que les bureaux de vote ouvrent. 78 millions ont déjà voté de manière anticipée et 160 millions d'États-Unis sont attendus aux urnes selon France Info. Les résultats seront calculés à la suite et pour nous les Européens, ça se passera cette nuit. Un record que personne ne souhaiterait avoir. C'est le nouveau record de pollution de l'air attribué à la ville de Lahore au Pakistan. La deuxième plus grande ville pakistanaise fait face à une hausse importante de particules fines volatiles néfastes pour l'homme cette semaine. Selon l'agence suisse IGR, il y a 44,4 fois plus de particules polluantes présentes dans l'air que les seuils maximums préconisés par l'OMS. Face à ça, les 14 millions d'habitants sont appelés à se calfeutrer, à porter un masque et à télétravailler. Un premier plan d'urgence de 10,6 milliards d'euros. Voilà le montant des aides annoncées par Pedro Sanchez à destination des Espagnols touchés par les inondations meurtrières de la semaine dernière. En plus de ces ressources financières, le chef du gouvernement espagnol a déclaré que le nombre de soldats et de policiers présents sur les lieux du drame a doublé. Un effectif qui est passé de 7 300 à plus de 15 000.
Ça fait beaucoup en même temps.
Ces trois derniers jours.
Trop de chiffres.
Il semblerait que deux grandes entreprises se sont aujourd'hui passé le mot pour enfoncer un peu plus l'industrie française. Aglaé, tu nous expliques ?
Eh oui, les groupes Auchan et Michelin ont annoncé la nouvelle ce matin. Des sites vont être fermés et des milliers de postes s'apprêtent à être supprimés. Concernant le fabricant de pneumatiques, la direction a déclaré que ses usines de Cholet et de Vannes allaient fermer d'ici à 2026. Sur les 19 000 salariés en France du groupe, 1254 sont donc sur le point de perdre leur emploi. En fin de matinée, ils et elles ont voté pour une grève générale qui débutera demain. Le fabricant, de son côté, se justifie en invoquant la hausse des coûts de l'énergie et la baisse des ventes de pneus. Ce n'est pas la première fois que Michelin se trouve en difficulté. En 2019 déjà, le site de La Roche-sur-Yon fermait. À ce moment, sur 618 salariés, 614 avaient retrouvé un emploi dans l'année après la fermeture. Le groupe utilise ces chiffres pour minimiser les suppressions de postes. Il se veut rassurant et affirme qu'il aidera ses salariés à trouver un travail, comme le prévoit le plan de sauvetage de l'emploi, mais cela ne suffit pas à apaiser les colères des employés. Dans un communiqué de presse, la préfecture du Morbihan prévient. Les pouvoirs publics seront extrêmement vigilants sur la qualité et l'efficience des mesures mises en œuvre, qui devront assurer le reclassement et la reconversion des salariés des sites concernés, mais aussi répondre aux obligations en matière de recherche de repreneurs, de revitalisation et de redynamisation du territoire. Au même moment, Auchan connaît lui aussi des difficultés économiques. En juin, la part de marché de la filiale était de 9,1%, soit loin derrière Leclerc avec ses 24,1% ou Carrefour avec 21,4%. Fin septembre, Auchan conclut donc une alliance pour 10 ans avec Intermarché. Une solution qui ne s'avère pas efficace, d'où l'annonce d'aujourd'hui, fermer une dizaine de magasins et donc supprimer 2389 emplois. Ce groupe de la grande distribution explique le désintérêt des consommateurs pour ces enseignes, en partie à cause de leur grande taille. En juillet, il informait réduire la surface de vente d'un tiers de ses hypermarchés en Europe. Toutes ces décisions ont pris de court les salariés. Les syndicats appellent à une réunion intersyndicale pour étudier un possible plan d'action.
Sur la période septembre 2023-septembre 2024, la CGT a recensé pas moins de 180 plans de licenciement, ce qui revient, pour une estimation très prudente, à plus de 47 272 emplois menacés ou supprimés. Deux perquisitions diligentées par le parquet national financier en une journée. La première est chez Netflix France, à Paris. Le géant de l'entertainment est soupçonné de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La deuxième, dans les locaux de la Ligue nationale de football professionnel, LFP. Celle-ci fait suite à la plainte de l'association anticorruption AC qui remet en question les conditions dans lesquelles l'accord entre la Ligue et les fonds d'investissement CVEC Capital Partners a été fait. Sinon, pour vous, est-ce que ça roule ?
17h30, Maï Mitterrand, heure de pointe. Adèle, elle, ne se sent pas très rassurée.
Dernièrement, les trottinettes électriques, j'avoue qu'à Rennes, il y a eu un accident il n'y a pas très longtemps. Du coup, ça me fait un peu peur quand je les vois passer super vite, surtout sur les trottoirs. Il y a des fois où je traverse au feu rouge. Pas dans les carrefours par contre, ça, parce que voilà, faut pas déconner non plus. Seulement sur les passages piétons que je connais, où je sais qu'il n'y a pas beaucoup de passages.
Clotilde Pamiseux, responsable de la communication chez Rayon d'Action, une association de représentation des usagers cyclistes et piétons.
Personnellement, effectivement, j'en fais tous les jours et tout le temps. Et on a encore quelques sueurs froides et on sent bien que c'est beaucoup lié à des problèmes de signalisation, de vitesse, d'aménagement, de comportement aussi. Hein, parce que dire à beau avoir les aménagements, effectivement, il y a une notion de comportement qui est importante aussi, sur laquelle il faut sensibiliser, sur laquelle il faut qu'il y ait des contrôles aussi de police. Il y en a pas mal qui sont faits au niveau des cyclistes parce que il faut que ça soit aussi équitable avec des contrôles des véhicules motorisés, notamment en ville.
Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de petits tronçons de pistes cyclables qui existent, mais qui ne sont pas reliés entre elles. Ce qui ne fait pas vraiment un réseau cyclable et ce qui n'encourage pas la pratique de manière sécurisée pour les usagers qui sont les moins à l'aise.
Vincent, fan de vélo, rêve des aménagements de Copenhague. Concernant ceux de Rennes, il est plus dubitatif.
Il y a beaucoup d'aménagements discontinus, voilà. Alors, il y a des choses très bien, et puis au bout de l'aménagement qui est très bien, il y a un moment où ça devient plus compliqué. Voilà. Je trouve qu'il y a des choix étonnants qui ont été faits à Rennes. Il y a assez peu de pistes cyclables, en fait, hein. Il y a beaucoup de bandes cyclables, et c'est quand même le type d'aménagement le plus sécurisant pour les cyclistes. Par ailleurs, je trouve que la ville a tendance à faire beaucoup d'aménagements partagés entre les vélos et les piétons, entre les vélos et les bus. Et ça, ces aménagements-là sont assez systématiquement générateurs de conflits. Il y a un sentiment un peu d'anarchie. Pardon.
Enfin, un conseil, mettez-vous à la place des autres usagers pour mieux circuler.
Et en novembre, Rayon d'Action organise la campagne cycliste Briller. Le but étant de s'équiper pour mieux voir et être visible à la nuit tombée. Soupçonné de viol sur mineur, Jean-Yves Prigent a été mis en garde à vue aujourd'hui. Cet ancien entraîneur national breton de canoë et kayak et coach du club rennais avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur deux autres mineurs en été dernier. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis probatoire. Après ce premier procès, une nouvelle plainte a été déposée en septembre et une enquête pour viol est en cours. Dans le sud de Rennes, 3 hommes ont été arrêtés par la police cette nuit avec une chèvre morte dans leur sac. Âme sensible, s'abstenir, car cette chèvre a été retrouvée avec un couteau de cuisine, égorgée et découpée en morceaux. Les hommes âgés de 41, 32 et 21 ans étaient en état d'ivresse au moment des faits et ont été placés en garde à vue. Le festival Jazz à l'OS, ça commence aujourd'hui. Héloïse, tu as rencontré Léa Bratotti, chargée de programmation à la MJC de Bréquigny, qui s'est chargée pour la première année de la prog de l'événement. Pour sa première édition, elle inaugure aussi de nouveaux partenariats.
D'élargir aussi un petit peu les partenaires du festival avec vraiment des belles propositions. On va retrouver notamment l'Opéra de Rennes qui va avoir la chance d'inviter et d'accueillir Jean-Marie Machado pour une première mondiale, un opéra en trois langues qui mêle jazz, anglais et breton. Voilà, avec un orchestre, l'orchestre d'Anzas qui va aussi occuper une place sur scène en fait, avec une mise en scène de Jean Lacornerie. Autre partenaire aussi, pour la première année, on accueille l'Acoustique à BD, donc qui est une salle portée par la municipalité de BD. Et donc Clovis Jiquel, le programmateur, a souhaité mettre en lumière le duo Tagomago, un duo aux teintes jazz progressif, qui avait été révélé notamment lors des Transmusicales en 2022. Et La Paillette, donc toute première collaboration dans le cadre du festival, qui va accueillir du coup une soirée plutôt groovy avec un collectif de musiciens nantais et rennais, Grand Gouvre Orchestra, le 16 novembre, avec à la fin un petit dance floor, boule à facettes, sortez les paillettes. Autre partenaire quand même que l'on va retrouver, on a aussi le Rots Valdanast, qui n'était pas présent dans la programmation lors de la dernière édition, et là qui a une proposition du coup qui ouvre un petit peu le festival vers les textes, la chanson et les teintes un peu blues avec Charlélie Couture, le samedi 9 novembre.
Jazz à l'Ouest, c'est une cinquantaine de concerts dans Rennes et les villes alentours, dont une vingtaine de propositions gratuites. Alors, n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 23 novembre. Envie de mer et d'en savoir plus sur nos océans, ce soir, à 20h30, toujours. Paul Tréguet, océanographe et professeur émérite à l'Institut universitaire européen de la mer à Brest, nous invite dans son monde. En effet, il sera l'invité d'une conférence sur le changement climatique et les océans à l'espace des sciences des champs libres. L'entrée est libre et le sujet est très intéressant. Hein, Héloïse ?
Oui, trop cool, on y sera. Merci Eva pour ce flash. Ce soir, on parle beaucoup d'élections américaines.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On a reçu la semaine dernière deux invités venus tout droit du Texas pour nous parler de l'élection américaine. On vous laisse écouter notre entretien. Costume bleu nuit avec des pins affichant les drapeaux français et américains. Eric Beatty est président du comité de jumelage Rennes-Rochester. Pull noir, presque à la Steve Jobs, sans le col roulé. Marc Matnott est enseignant-chercheur en civilisation américaine, responsable d'anglais pour le master Les Amériques à Rennes 2. Tous deux sont natifs du Texas. Je pensais que c'était important de le préciser. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, c'est une campagne qui est marquée par des coups bas, que ce soit des deux côtés. Entre les fake news et donc les fake news, ça montre une certaine fracture entre les deux Amériques. Qu'est-ce que ça dit de la démocratie ?
Je commence, Marc.
Oui,
je vais juste te dire, avant d'entrer dans le studio, je parlais à Marc d'un exemple de fake news et qui date de 1796. Donc, c'est-à-dire la première élection après George Washington, qui a été élu à l'unanimité, George Washington, pendant deux mandats. Et justement, les fédéralistes, à la tête de qui il y avait John Adams, avaient fait répandre un bruit comme quoi Thomas Jefferson, s'il était élu, allait confisquer toutes les Bibles des Américains. Mm-hmm. Et pendant des années après, on retrouvait les Bibles dans des puits caché par les habitants du Massachusetts et d'autres États dits fédéralistes. C'était vraiment le premier parti politique des fédéralistes et puis les antifédéralistes menés par Jefferson.
Oui.
Donc ça, voilà, donc c'est très
d'hier.
Négatif.
Ça ne date pas d'hier, toutes ces fake news et ces coups bas. Rien de neuf sous le soleil, en fait, selon
vous.
Mais aujourd'hui, on a aussi on constate une sorte de clivage. Enfin, les deux candidats sont radicalement différents. Comment est-ce que vous expliquez la sorte de clivage entre les hommes et les femmes au niveau des élections, enfin?
Moi, de prime abord, je dirais, et Marc sera peut-être d'accord avec moi, c'est, je pense qu'avant tout, c'est la décision de la Cour suprême d'avoir cassé la décision Roe versus Wade qui donnait le droit à l'avortement, enfin que tous les États devaient consentir à des avortements dans les frontières de l'État. Et puis, après juin 2022, ce choix a été laissé aux différents États. Et ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié des États où il est quasiment impossible ou impossible d'avoir un avortement, même si le médecin le préconise. Donc ça, c'est une des premières choses. Autrement, il y a aussi des femmes qui n'approuvent pas du tout le candidat Trump et son attitude, les différents procès qui ont eu lieu au cours des années, notamment, comme vous vous en souvenez, de Stormy Daniels et puis d'autres, E. Jean Carroll également. Alors ça en fait partie. Et puis clivage entre hommes et femmes, les femmes sont à, Marc, 52%, vote à 52%.
Quelque chose comme ça.
Voilà, et les hommes 48%. Et
puis les plus pauvres que moi. Mais...
Ouais. Non, mais les femmes sont plus enclines à voter malgré les intempéries, malgré les longues files d'attente, malgré les femmes sont plus enclines. Donc ça aussi, ça nourrit le débat et la situation actuelle.
Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette élection, c'est les alliances entre ce qu'on a considéré comme gauche ou droite dans le passé et comment ça se passe maintenant. Donc c'est comme l'inverse. C'est comme tout est complètement entouré à l'envers en ce moment. Et c'est très... Je comprends un peu, mais la raison pour laquelle c'est le cas, mais c'est très intéressant à voir à quel point les choses se sont inversées.
Il y a beaucoup de partis actuellement, beaucoup de factions et organisations qui s'appellent les Républicains pour Harris. Partout dans tous les États, et des petits groupes, des grands. Et ils disent toujours... mettre la nation avant le parti républicain. Donc c'est ça la devise de tout un chacun dans tous ces républicains qui sont anti-Trump.
Et si on revient au tout début de la campagne lors de l'investiture démocrate qui a marqué du coup l'arrivée de Kamala Harris en remplacement de Joe Biden, qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrivée, et est-ce que avec cette candidate les démocrates sont sûrs de gagner? Plus qu'avec Biden?
Pour moi, c'était difficile à comprendre comment ça s'est passé exactement. Moi, j'avais suivi des élections depuis 1976 avec l'élection de Carter. Et à chaque fois, il y avait des primaires et des caucuses. Qui sont arrivés à avoir un élu pour être candidat pour être président. À cette fois, il y avait Joe Biden qui était apparemment élu dans les primaires, mais juste tout d'un coup, le Parti démocrate a pris une décision dans laquelle Kamala Harris est devenue candidat, mais personne n'avait voté pour elle. Et pour moi, c'était un problème. Pour moi, il faut être élu. Il faut que les gens votent pour quelqu'un pour être élu. Et donc, on verra qu'est-ce qui se passait contre Trump. Mais pour moi, le processus démocratique, au moins... dans lequel les élus sont, les candidats sont élus pour les partis, doit changer. Il faut être plus démocratique. Mais c'est juste mon avis, mais je vous laisse.
Je nuance un petit peu ce que tu viens de dire.
Allez-y.
Parce que elle était quand même la colistière de Joe Biden. Mm-hmm. Donc, en quelque sorte, je vais voir les choses comme un businessman, comme Donald Trump, qui a délégué Donc, la continuation de sa campagne pour eux, enfin pour tous les deux. Je sais que bon, ça a abouti à beaucoup d'amertume de la part de la famille de Joe Biden.
Sure.
D'une certaine façon, elle a été déjà élue avec Joe Biden en 2020. Et je pense que ça, c'est un peu légitime. C'est assez légitime ce qu'elle fait. Mais il est vrai que beaucoup de personnes pensent comme toi, et du côté des démocrates et du côté des républicains.
Mmh. Ouais.
Et Kamala Harris est donc une femme noire, qui plus est. Si elle est élue présidente, est-ce que les États-Unis sont prêts, selon vous?
Moi, je crois que oui. On avait déjà le premier homme démocrate, Barack Obama, qui était élu. Il était bien représenté. Il avait bien son popularité. Il avait ses défauts et ses avantages, comme tout le monde. Mais je crois que ça ne pose pas un problème pour Kamala Harris d'être élu. Mais peut-être il y a d'autres choses qui pourrait poser des problèmes avec elle, mais ça je crois pas. Le fait qu'elle est noire, et je crois qu'elle est indien, et son père est
Caraïbes,
Jamaïque.
Aux États-Unis,
oui. C'est ça. Ouais. Donc,
je suis d'accord avec toi, Marc. Je pense qu'il n'y aura pas de problème excessif. Une fois, si jamais elle est élue présidente, elle sera, je pense que le choix sera respecté par presque tous les Américains, peut-être pas tous, mais c'est toujours comme ça. Dans une démocratie, il y a toujours une opposition. Et puis, cette élection est assez serrée.
Oui.
Nous verrons bien le résultat dans la semaine du 5 novembre.
Peut-être on pourrait revenir sur plusieurs visages qui ont marqué cette campagne. D'abord du côté démocrate. Tu veux nous dire de qui tu veux parler, Aglaé?
Oui, Taylor Swift est un soutien, une figure féministe. Quel message transmet-elle et en quoi elle a son rôle à jouer dans la campagne?
Un soutien à un démocrate.
Oui, démocrate.
J'en sais rien. À mon avis, je suis pas très le courant actuel de j'en sais rien personnellement.
À mon avis, ça ne va pas tirer à grandes conséquences parce que par le passé, il y a toujours eu des soutiens venus de beaucoup de monde. Il y a Bruce Springsteen aussi qui a apporté son soutien à Kamala Harris, Willie Nelson, notre idole. Oui. Marc et à moi du Texas. Je ne sais pas si ça tire vraiment à conséquence. Alors, pour Taylor Swift, il vaut mieux avoir son soutien que de ne pas l'avoir, certainement, mais combien de voix est-ce que ça pourrait donner? Plusieurs milliers, peut-être. Mais je pense qu'elle est... elle plaît à une certaine tranche démographique. D'électeurs de 18 ans à 29 ans, hein, même peut-être au-delà. Donc c'est important. Et d'autant que il y a des Swifties for Harris qui a été créé et puis apparemment ça a fait s'inscrire beaucoup de jeunes, surtout femmes, sur les listes électorales. Quant à avoir un impact, ce sera impossible à évaluer.
Et je crois, en général, les gens pensent pour eux-mêmes.
Finalement, quand ils vont aux urnes, finalement, je ne pense pas qu'ils entendront la voix de Taylor Swift dans leur fort intérieur.
Exactement. Ils pensent pour eux-mêmes.
En leur disant de voter pour Kamala Harris. Ouais. Mais non, ils vont voter. Pour qui est-ce que les Américains vont voter? Ou pourquoi? C'est l'économie, c'est l'inflation, c'est ce qu'on appelle les kitchen table issues, c'est le quotidien, c'est le prix de l'essence. Après, il y aura aussi l'environnement. Beaucoup sont très soucieux. Aussi, la politique étrangère, ça fait partie des soucis. Mais et même aussi la situation au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine.
J'aimerais bien te demander un peu, parce qu'on a les trois grandes axe de la politique étrangère américaine, c'est l'Ukraine, c'est le Moyen-Orient et c'est la Chine. Et à mon avis, c'est juste mon avis, j'aimerais bien de demander, Eric, ton avis.
Vous
Trump,
posez les questions pour nous.
Trump
c'est
et, et Harris, Biden sont complètement d'accord avec la Chine et le Moyen-Orient, mais avec l'Ukraine, il y a une différence. Et moi, en tant qu'Européen, je ne veux pas que l'Europe s'engage dans une guerre à l'Ukraine. C'est la stupidité totale. Et c'est juste mon avis. Mais je voulais avoir ton avis. Et je vois que Trump, au moins, ils disent, ah oui, on va s'engager, dégager de l'Ukraine et arrêter cette guerre. Et peut-être il fait des promesses trop faciles, je suis complètement conscient de ça, mais j'aimerais bien d'avoir ton avis sur ce sujet parce que c'est important pour beaucoup des Européens. Est-ce qu'on va envoyer nos enfants d'être tués en Ukraine pour Zelensky, ou est-ce qu'on pourrait trouver un autre moyen d'avoir la paix avec la Russie et de ne pas avoir ces guerres, quoi.
Ouais, je comprends ton point de vue. Cela dit, ça ne risque pas... c'est-à-dire que dans le Sénat, il y a déjà beaucoup de républicains et de démocrates qui sont pro-Ukraine.
Ouais.
Ça, c'est indubitable. Même des personnes qui ont une certaine allégeance envers Donald Trump. Pareil, dans la Chambre basse, à la Maison des représentants, il y a un soutien assez général pour l'Ukraine. À quelques exceptions près, des qui se font entendre régulièrement. A-t-on le pouvoir d'arrêter de fournir des matériaux, des équipements promis à Vladimir Zelensky par l'administration Biden? Ça ne va pas. 24 heures, ça me semble bien difficile. Mais cela dit, est-ce qu'on doit aider l'Ukraine? Eh bien, c'est une question pour l'Europe. Je pense qu'il faut poser cette question aux Européens. Et les États-Unis sont là. Parce qu'ils sont dans l'OTAN. Et l'OTAN, c'est un accord entre les États-Unis et puis l'Europe.
Donc cette question a totalement dévié. On parlait de Taylor Swift à la base quand on parlait. Donc, figure de soutien des démocrates. On voulait aussi vous poser une question sur une figure de soutien des républicains.
Oui, Elon Musk est lui un soutien de Donald Trump. Donald Trump l'aurait chargé de réaliser un audit pour réformer le gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça,
Elon Musk?
Je pourrais commencer. Moi, Elon Musk, son père était, je crois qu'il était propriétaire des grosses mines en Afrique du Sud pendant l'époque d'apartheid. Donc, je n'ai pas beaucoup de confiance dans son état d'esprit. Il a plusieurs entreprises entre eux. C'est la marque des voitures Tesla et
SpaceX.
Oui, ils font des. Mais je ne vois pas son génie. C'est quelqu'un qui est très bien dans son présentation de lui-même, d'acheter des actions dans les entreprises différentes et d'être propriétaire, entre guillemets, mais quelques commentaires qu'il a fait sur les voitures récemment, ça montre son ignorance totale sur la mécanique, sur beaucoup de choses. Donc, il est là, il joue son rôle, mais je ne le vois pas comme quelqu'un auquel on pourrait faire confiance et d'être quelqu'un qui est bien pour l'humanité. Peut-être que je me trompe, mais c'est juste mon avis.
Eh bien, le candidat Trump a accueilli à bras ouverts le soutien d'Elon Musk. Ça fait des mois qu'il en parle même. c'est quelqu'un qui est admiré, Elon Musk, pour son savoir-faire, pour ce qu'il a réussi à créer. Cela dit, il y a beaucoup de républicains qui, en ce moment, ne sont pas d'accord avec sa façon de mener son Political Action Committee, ce qu'on appelle un PAC, qui vient soutenir et puis qui va embaucher les personnes à faire du porte-à-porte pour Donald Trump. Ils trouvent que ce n'est pas exactement, ça ne correspond pas vraiment à leurs attentes, le résultat. Que dire? Est-ce qu'il peut être nommé commissaire, haut commissaire dans le gouvernement, dans un éventuel gouvernement de Trump? Eh bien, le président peut nommer qui il veut dans son cabinet.
C'est tout.
Cette campagne a aussi été marquée par une tentative d'assassinat contre Donald Trump pendant un meeting. Plusieurs autres ont été déjoués après ça. Qu'est-ce que ça a changé à la campagne selon vous et comment est-ce que chaque camp s'est un peu saisi de cet événement, un peu utilisé cet événement?
Oh ben les démocrates ont fait part tout de suite de leur empathie vis-à-vis du candidat Trump, Joe Biden, aussi Kamala Harris. C'est grave, de la violence dans la politique interpelle tout le monde. Alors comment est-ce que ça peut aider Donald Trump? C'est certain que ça a contribué à une image d'un fort qui a su survivre après cet attentat. Et puis, juste après, Joe Biden a annoncé, parce qu'il y a eu le débat, le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Et puis, à ce moment-là, Joe Biden a annoncé qu'il n'allait pas poursuivre donc sa candidature au Parti démocrate. Il a annoncé la nomination de Kamala Harris. Donc, Donald Trump en a beaucoup voulu aux démocrates cela, c'est-à-dire même jusqu'à en disant « je voudrais faire rembourser l'ensemble de mes dépenses électorales de campagne ». Et puis pour le deuxième attentat concernant un homme armé qui aurait eu des visées sur lui pendant une partie de golf, je ne sais pas si ça a eu un impact pour l'électorat de Trump. Alors sans doute y a-t-il des théories de conspiration qui en ont résulté, mais difficile de dire quel va être l'impact. En tout cas, ce n'est pas dans les grandes questions des instituts de sondage auprès des supporters de Trump. Ouais.
Qu'est-ce qui va faire la différence dans le résultat selon vous? C'est les indécis, les gens qui vont décider au dernier moment?
Ce qui va faire la différence, c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain, les deux candidats. Ça, c'est certain. Est-ce qu'ils avaient des équipes dans les 50 États qui faisaient du porte-à-porte? Parce que c'est vraiment, ça revient à ça. En plus de ça, il y a un exercice qu'on appelle phone banking, qui est le fait de téléphoner à toutes les personnes. Par exemple, les républicains vont téléphoner à toutes les personnes qui savent être soit des indépendants, soit des républicains ou des indépendants qui se penchent plutôt vers la droite. Et ça, c'est finalement, ça va revenir à cela. Et regardez dans le vote anticipé en ce moment. Jusqu'à l'élection, et ça donnera quelques indices. Il y a d'habitude en octobre, il y a ce qu'on appelle la surprise du mois d'octobre, the October surprise. Alors jusqu'ici, il n'y a pas eu quelque chose de fracassant, sauf si l'ouragan. L'ouragan Milton, c'était et qui a eu des conséquences non seulement pour la Floride, mais pour la Géorgie
et la
Caroline du Nord.
Mais sur la politique internationale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que
une escalade importante en Israël ou...
Oui, ça pourrait être ça.
Est-ce que ça pourrait pencher la balance, à votre avis?
Je ne suis pas sûr, parce que, et du côté démocrate et du côté républicain, les Américains sont plutôt enclins à soutenir l'Israël. Oui. Donc, il y a des nuances dans les campus, dans les universités et dans une partie de ce qu'on appelle l'extrême gauche, qui pour les Français n'est pas vraiment si extrême que ça. Mais en tout cas, ça va avoir un impact là-dessus, peut-être sur eux. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est le quotidien qui va tout décider. Et puis aussi, il y a aussi un autre facteur, et c'est la démocratie. Et c'est cité régulièrement parmi les différents électeurs. Quel est leur souci? Le plus important aussi, c'est la sauvegarde, la protection de la démocratie. Et c'est interprété différemment chez les républicains et différemment chez les démocrates. Mais aussi, c'est un souci central.
Ok. Peut-être pour finir, vous pouvez nous dire, vous en tant qu'expatrié, comment vous vivez cette campagne et qu'est-ce que vous avez prévu pour l'élection? Est-ce que vous avez prévu de vous réunir ou de faire quelque chose en particulier?
On n'a rien prévu s'il y a quelque chose.
Oui, je vais animer le petit déjeuner électoral le 6 novembre à 7h30 du matin à l'Institut franco-américain. Donc je suis le gentil animateur.
Je pourrais dire que c'est l'élection la plus bizarre que j'ai jamais vue. Je ne sais pas quoi penser.
Ok, bon, une élection bizarre. On terminera là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans le studio de SILAB.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Au
revoir. L'élection présidentielle américaine, ça a lieu en ce moment aux États-Unis, cette nuit pour nous en France. On saura le nom du ou de la présidente demain matin, voire peut-être un peu plus tard dans la journée en cas de résultat très très serré.
6h avant minuit.
Une fois par mois, Eva vient nous présenter sa chronique Take It or Leave It, la chronique qui décrypte la prog musicale de SILAB, Eva.
C'est le retour de ma chronique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jean, pas G-E-N-S, mais J-E-A-N, le prénom Jean, qui est le nom de scène de cet artiste francophone. La chanson dont je vous parlais plus particulièrement, c'est sa dernière chanson, sortie mi-octobre, qui s'appelle « Arrête de faire comme si ». J'ai découverte grâce au très cher comité de programmation de la Radio SILAB, dédicace à tous ceux qui m'écoutent.
SOSO, RPZ.
Cette chanson m'a marqué l'esprit lors de la première écoute, et ça par son flow, ses paroles bien construites qui donnent le tempo. Et même si ses paroles racontent des moments de vie difficiles de l'artiste, la rythmique fait en sorte que tu ne tombes pas en dépression en l'écoutant. Pourtant, Jean le dit lui-même, arrête de faire comme si tout allait bien, t'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine.
T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèment. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Oh, arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Pour me mettre en question, j'attendrai demain.
Ça vous fait bouger un peu
ça bounce.
Là, ça bounce. Bah, c'est une instru assez joyeuse avec des cowbells. Un synthé et une basse enivrante façon soul, R&B, qui tiennent la mélodie tout le long de la chanson et un kick qui te garde dans le rythme. Personnellement, je l'aime bien parce qu'elle est agréable à l'oreille. Les mots utilisés s'immiscent parfaitement dans l'instrumental, comme des vagues rythmées. Tu te laisses emporter par le courant ou comme sur une balançoire, tu te balances en avant, en arrière. À chaque ligne de batterie, tu hoches la tête de gauche à droite. Et pour aller un peu dans les paroles, j'aime comment il alterne entre le tu et le je, avec toujours un même message, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Le tu, ici, a, selon mon interprétation, plusieurs individus associés à lui. Il peut représenter une personne extérieure qui lui pose des questions, qui le met peut-être un peu mal à l'aise, mais il y a aussi un tu qui le représente, où il se remet en question lui-même dans ses actes et dans ses paroles. En tout cas, chacun peut y voir sa propre interprétation. Mais attends, monte le son s'il te plaît. «
que
tout
vous
monde danse
entendez
autour de la table. On peut pas
et
s'empêcher.
Oui, et oui. Est-ce que vous
montez
entendez
le son chez vous.
En fond, depuis tout à l'heure, c'est une autre trouvaille de notre incroyable comité prog. Et oui, Teen Girl de Ashley Henry, un artiste londonien. Ce titre est sorti mi-octobre également. Une instrumentale assez rapide, inspirée du jazz, avec une batterie omniprésente comme noyau et ses racines sous forme de cowbells dansantes, de trompettes entêtantes et pas de paroles. Ça change un peu. En tout cas, ces deux chansons sont déjà dans la playlist de la Radio CELAB, avec 13 autres chansons ajoutées la semaine dernière. À vous de les découvrir.
Super, merci Eva, tout un programme. Je voulais juste vous faire passer un petit message avant qu'on se quitte.
Téléphone.
Téléphone.
Allô.
CELAB, la radio sauvage.
Oui, si jamais c'est vous qui vouliez nous faire passer un message, nous partager un fait marquant près de chez vous, nous faire part d'une déclaration d'amour, nous partager
c'est
aussi...
C'est urgent, là, s'il vous plaît.
Un coup de gueule.
On a une chef de rédac, elle n'en peut plus, là. Elle n'attend que ça.
Laissez-nous...
Un message vocal.
Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera peut-être, sûrement, diffusé à l'antenne. Merci Ulysse pour la technique. À demain tout le monde.
Merci le boss.
À demain.
Si
la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur CELAB, la radio sauvage.